Eh bien, bonjour, frères et sœurs, je vous souhaite à tous un très très bon sabbat. Nous savons que notre Créateur, Dieu, nous donne bien des choses. Il nous donne la vie, il nous donne tout ce qui est nécessaire à rester en vie, il nous a appelés et il nous donne des promesses merveilleuses pour l'avenir. Il y a aussi un grand don que Dieu nous donne, il nous l'a donné déjà, il nous le donne toujours, que nous ne reconnaissons pas toujours, du moins je parle dans la famille de l'Église de Dieu, nous ne reconnaissons peut-être pas et nous n'apprécions peut-être pas à sa juste valeur ce don que Dieu nous donne. Je parle de la fraternité chrétienne. Je peux vous dire que mon épouse et moi, nous avons eu l'occasion de vivre comme étrangers dans plusieurs pays. Nous avons passé, comme vous le savez, des années en France. Et en regardant les années que nous avons passées en France avec le peuple de Dieu, cela nous paraît vraiment comme un don merveilleux. Un don merveilleux pour nous autres, nous qui étions étrangers, nous n'étions pas du pays, et pourtant nous étions accueillis comme des compatriotes. Nous étions accueillis comme des membres de la famille. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Nous avons vu l'importance et l'utilité de la fraternité partout où nous étions affectés en France. Il faut que nous aussi nous apprécions ce don que Dieu nous donne. Avant et après nos assemblées sabbatiques, nos assemblées de fêtes annuelles et à d'autres occasions, quand nous sommes ensemble en tant que frères et sœurs, nous avons la possibilité de fraterniser, de passer du temps fraternel ensemble. Rappelons-nous que le but de Dieu, c'est de créer une famille où les différents membres vont vouloir être ensemble pendant toute l'éternité. Ils vont apprécier la compagnie des uns et des autres pour toujours. Une des premières choses que Dieu a dit à propos de l'homme, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, Dieu lui a fait une aide semblable à lui. Il n'est pas bon pour nous d'être seuls. La solitude est un fardeau. Et cependant, nous devons apprendre comment être ensemble de manière positive. Et c'est un peu de cela que j'aimerais parler aujourd'hui. Je vous propose de regarder dans la Bible aujourd'hui ce que la Bible dit à propos de la fraternité chrétienne. Peut-être que lorsque nous pensons à la fraternité chrétienne, nous pensons tout de suite à la fraternité entre nous, entre êtres humains. Mais en fait, la fraternité chrétienne commence avec une communion avec Dieu. Et la Bible mentionne ceci à plusieurs reprises. Tout de suite au début dans la Genèse, regardons Genèse chapitre 5, nous avons plusieurs exemples où Dieu utilise, se sert d'un langage spécialisé, un langage spécial pour parler des rapports qu'il a eus avec quelques êtres humains de sa création, bien entendu. Genèse chapitre 5, verset 22. Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Il marcha avec Dieu. Une formule intéressante, n'est-ce pas? C'est comme s'il marchait à côté de Dieu, il marchait avec Dieu. Dieu marchait là où il était et il était ensemble avec Dieu. Il y avait une relation étroite, comme s'ils faisaient route ensemble. Ça, c'est une partie de la fraternité chrétienne. Il y a une communion qui existe même avec notre Créateur. Quelques versets plus loin, dans Genèse chapitre 6, verset 9, Genèse chapitre 6, verset 9, « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » La même phrase est utilisée. « Noé marchait avec Dieu. » Vous savez que Dieu offre ce privilège aujourd'hui à peu de gens. C'est pas n'importe qui peut marcher avec Dieu. Nous comprenons dans l'Église de Dieu que Dieu doit faire le premier pas. Il doit retirer le voile spirituel et attirer quelqu'un vers son Fils avant que cette relation puisse voir le jour. Et Dieu n'offre cette possibilité actuellement à peu de gens. Jusqu'à quel point est-ce important pour nous de savoir que nous pouvons marcher avec Dieu? Nous pouvons avoir une relation étroite avec lui. Nous avons ce privilège. Regardons dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, verset 3. 1 Jean chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, dit Jean, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Cela devrait être un sujet de joie pour nous que notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Une communion, une union étroite, familiale, qui peut exister entre nous et notre Père céleste et notre frère aîné Jésus-Christ. Nous pouvons avoir une certaine fraternité, même dans nos relations avec Dieu. Il y a une relation familiale qui doit être là. Je ne vais pas prendre le temps de le lire maintenant, mais dans Matthieu chapitre 12, versets 49 à 50, quand quelqu'un a dit à Jésus que sa mère était à la porte, ses frères et sœurs, il a fait signe de ses disciples autour de lui, il a dit « Voici ma mère, voici mes frères ». Nous sommes, il nous considère comme ses frères. Et nous pouvons avoir cette relation familiale avec Dieu. Nous pouvons marcher avec lui. Et encore une fois, je pose la question, jusqu'à quel point est cela important pour nous? Qu'est-ce que nous faisons de notre fraternité avec Jésus-Christ? Est-ce que nous en profitons? Est-ce que nous y mettons de la valeur? Est-ce que nous passons du temps à cultiver et à profiter pleinement de cette relation qui peut être là? Ce n'est pas notre grand sujet, nous allons l'aborder maintenant, la fraternité entre nous, mais il est important d'avoir ce point de départ que nous avons une fraternité, nous avons une relation familiale avec Dieu le Père et avec notre frère aîné Jésus-Christ. C'est un grand privilège pour nous et nous devons y mettre de la valeur. Ensuite, la Bible nous parle d'une fraternité qui doit exister entre frères et sœurs. Et nous comprenons que spirituellement, la Bible parle de membres de l'Église de Dieu comme des frères et sœurs. Nous sommes tous frères cadets de Jésus-Christ et ça veut dire que nous sommes frères et sœurs les uns par rapport aux autres. Psaume 133, s'il vous plaît. Nous allons lire ce passage qui parle beaucoup de cette unité qui doit être là entre frères et sœurs. Psaume 133, verset 1. Cantique de degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, sous-entendu dans l'unité, pas de demeurer ensemble en se bagarrant, ça c'est pas doux et agréable. Mais pour des frères et sœurs de s'apprécier mutuellement, de s'aimer et de pouvoir être ensemble. Le monde reconnaît la valeur de l'unité entre gens. On cherche l'unité. On dit l'union fait la force. L'Union européenne cherche à se construire. D'autres pays au monde mettent de l'importance à cette unité. Les partis politiques disent toujours vouloir rassembler les Français, les Belges, les Suisses. On veut rassembler parce que l'unité est reconnue comme un bien. Il semblerait que c'est un besoin que Dieu a mis dans les êtres humains. Nous cherchons à être unis, nous cherchons à être solidaires, nous cherchons une fraternité, nous ne voulons pas être seuls. Malheureusement, souvent, les efforts des hommes pour l'unité ou vers l'unité tournent mal, puisqu'on ne sait pas quoi faire avec cette unité une fois l'atteinte, et ça finit assez souvent, ça finit mal. Nous avons besoin d'être unis, oui, mais par ce qui va porter de bons fruits. Nous devons être unis par ce qui vient de Dieu, par l'intermédiaire de ce que Dieu accomplit dans ses serviteurs, dans ses enfants. Nous avons besoin, un besoin qui ne peut être comblé que par l'unité qui se fait quand Dieu intervient, quand Dieu est là, par son Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 1, verset 7. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous sommes mutuellement en communion. Il y a une unité très étroite qui doit être là entre frères et sœurs de l'Église. Il faut marcher dans la lumière. C'est ça la voie de l'unité. La lumière, c'est la voie de Dieu. C'est la vérité que Dieu nous révèle. 1 Pierre chapitre 1 parle de cette voie. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. Cet amour fraternel vient en grande partie lorsque nous obéissons à la vérité. Ça, c'est un composant nécessaire de cet amour fraternel. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ça, c'est quelque chose que nous devons faire les uns envers les autres, dans l'Église. Nous ne sommes pas simplement membres d'une association. Nous devons être frères et sœurs. Et nous devons être motivés par un amour ardent les uns pour les autres. Et cela nous vient en grande partie par l'agissement du Saint-Esprit dans nos vies. C'est Dieu qui répand son amour en nous à travers le Saint-Esprit. Verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, obéissant à la vérité. » C'est une clé primordiale. La Bible parle beaucoup de la fraternité, de la communion entre chrétiens, et comment nous devons faire pour les maintenir. Cette action, cette communion, va devenir de plus en plus importante avec le temps qui passe. Plus nous nous approchons du temps de la fin, plus cet amour fraternel sera vraiment absolument nécessaire pour notre survie spirituelle même. Nous allons avoir besoin des uns des autres de plus en plus. De plus en plus. Matthieu chapitre 24, lisons ce passage et ensuite nous allons passer à une liste de contrôle. Qu'est-ce que nous devons faire pour renforcer et maintenir la fraternité? Mais regardons d'abord Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 10. Le contexte du temps de la fin, les disciples voulaient savoir quels seront les signes de ton avènement et de la fin de ce monde. Il dit au verset 10, « Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Cela m'était difficile à comprendre au début de ma démarche avec Dieu. Mais maintenant, avec les expériences de la vie, je peux comprendre. Parce que j'ai vu des personnes qui étaient frères et sœurs, qui ont fini par, je le crois du moins, d'après ce qu'on peut voir de l'extérieur, qui ont eu de la haine finalement. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Plus le temps va passer, plus ce sera un défi de garder fort et solide les liens familiaux, les liens de fraternité qui doivent exister et qui doivent nous unir. Plus le monde se désagrège, plus nous serons affectés par cette mentalité. Si nous ne sommes pas sur nos gardes, nous allons être entraînés par ces mauvaises voies dans le monde. Alors, comme j'ai dit, comment est-ce que nous pouvons faire concrètement? Quelles sont des choses que la Bible nous donne, des clés que la Bible nous donne pour renforcer et maintenir cette fraternité chrétienne qui doit exister entre nous? Eh bien, j'ai appelé ceci une liste de contrôle. J'espère que vous allez les noter, que vous allez méditer ces choses et examiner votre vie pour voir est-ce que je peux mieux faire dans certains de ces domaines. Est-ce que je pourrais participer davantage à la fraternité, à solidifier la fraternité dans l'Église? Comment est-ce que nous pouvons contribuer? Comment renforcer les liens spirituels de famille? Certaines de ces choses, certains de ces points seront plus faciles pour nous que d'autres. Et ça va dépendre des personnes. Il peut y avoir un point qui est facile pour moi, difficile pour vous, et l'inverse aussi. L'inverse aussi. Mais plus nous les mettons en pratique, plus notre fraternité dans l'Église, notre communion sera forte, et plus le corps de Christ sera efficace dans sa tâche, dans sa mission. Alors, quelle est cette liste de contrôle pour renforcer et maintenir la fraternité? 1 Jean chapitre 1, premier point. Premier point sur la liste. 1 Jean chapitre 3, verset 14. 1 Jean chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ça, c'est intéressant. C'est une règle par laquelle on peut mesurer en quelque sorte notre... Si nous sommes passés de la mort à la vie, si notre salut est en bonne voie, c'est de regarder l'amour que nous avons les uns pour les autres. Est-ce que nous avons un amour sincère les uns pour les autres? Ça, c'est un premier point très important pour développer et maintenir la fraternité. Il faut qu'il y ait l'amour. Non pas simplement le fait de se supporter les uns les autres, mais d'aimer sincèrement les uns les autres. Ça, c'est, nous ne pouvons pas le prendre pour acquis, cela. Parce que ça ne vient pas naturellement à l'homme d'aimer tout le monde. Surtout des personnes qui ont des personnalités différentes, qui ont des tempéraments différents des nôtres. Eh bien, parfois, ça peut être un effort d'aimer quelqu'un. C'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Comment est-ce que nous pouvons avoir un amour sincère les uns pour les autres, même pour ceux qui, pour nous, semblent avoir une personnalité un peu plus difficile? Eh bien, nous pouvons mettre l'accent sur ce qui nous unit, sur notre foi commune, sur le fait que nous luttons tous dans un même sens, que nous avons tous des épreuves à surmonter, à vivre dans un monde qui va dans le sens inverse, de mettre l'accent sur ce qui nous unit, ce que nous avons en commun. Et puis surtout, nous devons prier et demander à Dieu, par son Saint-Esprit, de mettre son amour en nous, de développer en nous un amour sincère les uns pour les autres, même pour ceux avec qui nous avons moins d'affinité, disons. Cet amour doit être là, devrait être là pour chaque membre de l'Église de Dieu, parce que cette personne a été choisie par Dieu, pardonnée par Dieu, Dieu est en train de le guider, tout comme il nous guide avec nos points forts et nos points faibles, il nous guide tous dans le même sens, dans la même direction. Ça, c'est un premier point, donc. Il faut avoir un amour sincère les uns pour les autres. Alors, une question à se poser. Est-ce que j'ai un amour sincère pour chaque membre de ma congrégation? Peut-être que ça voudrait dire, je dois mieux connaître les personnes dans ma congrégation. On ne peut pas aimer quelqu'un vraiment si on ne les connaît pas. Est-ce que j'ai un amour sincère pour tous mes frères et sœurs? Ça devrait être le cas, comme nous le voyons ici dans 1 Jean chapitre 3. Un amour sincère. Deuxième point sur la liste de contrôle, Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, verset 16. Malachie, chapitre 3, verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Tout cela est bien, nécessaire, mais c'est, vous avez noté au début du verset 16, « Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un et l'autre. » Une clé pour avoir une bonne fraternité, c'est de se parler, c'est de communiquer entre nous. C'est facile pour certaines personnes, ou vis-à-vis de certaines personnes, ça va être un plus grand défi pour d'autres personnes avec qui nous avons moins en commun. Mais en mettant l'accent sur les choses que nous avons en commun, nous pouvons avoir de bonnes conversations. Nous pouvons avoir de bonnes conversations. Cela nécessite du temps. Cela nécessite parfois une réflexion à l'avance afin de pouvoir parler de choses qui comptent, de choses importantes, de choses de poids, des choses spirituelles, des expériences partagées, choses que nous avons en commun. Il y a un temps pour tout, et avant et après nos assemblées sabbatiques, c'est un moment excellent de se parler de choses importantes et sérieuses. Anne Lindbergh, la femme, l'épouse de Charles Lindbergh, a dit « Une bonne communication est aussi stimulante que du café noir, et il est tout aussi difficile de dormir après. » Peut-être que vous avez eu une conversation, j'espère que vous avez déjà eu l'expérience d'une conversation qui était tellement passionnante, encourageante, stimulante, qu'on a longtemps réfléchi après, réfléchi sur ce qui a été dit. Ça, c'est tout à fait vrai. Madame de Sévigné a dit « Une heure de conversation vaut mieux que 50 lettres ». Beaucoup de lectures, une heure de conversation, c'est mieux. Et nous avons l'occasion de discuter entre nous. C'est une chose qui m'attriste un petit peu des fois quand j'entends les conversations que nous tenons avant et après les assemblées. Parfois, il n'y en a pratiquement pas. Dans certaines congrégations, sitôt qu'on dit « Amen » à la fin de l'assemblée, les gens s'en vont et rentrent chez eux. Ça, c'est dommage. Nous avons l'occasion d'apprendre à mieux nous connaître, de partager les uns avec les autres le fruit de nos réflexions. Ça, c'est une chose qui est très bien. Mais aussi de parler, comme j'ai dit, de sujets de poids, des choses que nous avons en commun sur le plan spirituel, l'expérience que nous avons eue dans la vie, peut-être un trouvaille sur lequel on est tombé dans notre étude biblique, quelque chose qui nous a beaucoup frappé dans le sermon, la sermonnette. Ce sont d'excellents sujets de conversation qui vont être encourageants et stimulants pour nos frères et sœurs. Pour avoir une bonne fraternité, il faut se parler. Il faut avoir de bonnes conversations. J'aimerais vous encourager de vous fixer le but personnellement d'améliorer le niveau de conversation que vous tenez pour que ce soit quelque chose d'utile. Ça ne veut pas dire que chaque sujet de conversation doit être uniquement sorti de la Bible, mais quand même, surtout le jour du sabbat, quand nous sommes ensemble, un jour qui est consacré à Dieu, nous devrions parler de choses qui tendent dans ce sens-là. Troisième point, Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Verset 32. Luc chapitre 22, verset 32. Mais prenez le verset 31, prenons le verset 31. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Affermis tes frères. Qu'est-ce que ça veut dire « affermir » Mais ça veut dire rendre plus ferme. Comment est-ce que nous pouvons rendre nos frères et sœurs plus fermes? Eh bien, en tenant des propos positifs, en cherchant à dire des choses qui vont tendre dans le sens de solidifier la foi, ne pas affaiblir, affermir. Parler de choses positives, solides, encourageantes. Ne pas simplement vider notre sac de tout ce qui a été mal ou mauvais dans la semaine. « Oh, toutes les épreuves que j'ai eues, il faut que je vous raconte ça. » Il y a un moment pour faire cela. Mais ce n'est pas avec tout le monde et ça ne devrait pas être tout le temps non plus. Et en particulier, quand nous sommes ensemble aux activités de l'Église, dans la mesure du possible, nous voulons affermir. Affermir nos frères et sœurs. Tenir des propos positifs. Raconter des anecdotes encourageantes et positives de ce que Dieu a fait dans nos vies. Ces choses-là affermissent. Et c'est ça que nous voulons chercher à faire, affermir nos frères et sœurs. Est-ce qu'après avoir passé du temps avec vous, moi je me pose la question pour moi aussi, est-ce que les gens sont plus heureux, est-ce qu'ils sont plus fermes dans leur engagement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la Bible, Est-ce qu'ils sont plus fermes ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va les déranger? Est-ce qu'ils vont sortir un peu troublés ou un peu, peut-être un peu déstabilisés puisqu'ils ont entendu des critiques ou ils ont entendu des choses qui étaient négatives? Jésus a dit à Pierre, affermis tes frères. Et ça, c'est un but que nous devrions nous fixer également, d'affermir nos frères et sœurs. Quatrième point sur la liste, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 11. Romains chapitre 1, verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Encore une fois, c'est un but que Paul s'est fixé. Affermir ses frères et sœurs. Ou plutôt, donc il précise un peu plus sa pensée, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Un but que nous devrions nous fixer dans notre fraternité, une fraternisation, une discussion, c'est que nous devrions sortir encouragés mutuellement. Et la façon de faire cela, c'est de mettre l'accent sur la foi qui nous est commune. De réfléchir sur cette voie que nous suivons, cette démarche dans la vie, de marcher avec Dieu. Et de réfléchir à cela en semaine pour pouvoir avoir quelque chose de positif, d'encourageant à partager avec nos frères et sœurs. Être encourageant le jour du sabbat nécessite une certaine réflexion pendant la semaine. Essayer de trouver quelque chose, de trouver un sujet de conversation, quelque chose à raconter, quelque chose à partager en semaine, pour que vous ayez ça à l'esprit quand on arrive à l'assemblée. Il y a un homme dans la congrégation de Dallas ici, à chaque fois que je suis là, ce qui n'est pas toujours très souvent à cause de tous nos voyages, mais quand il me voit, il me fait signe de la main, il a toujours une petite anecdote, une petite histoire, parfois c'est une blague, parfois c'est autre chose, parfois c'est un commentaire sur ce qui se passe dans le monde, parfois c'est simplement une réflexion qu'il a eue à propos de la voix de Dieu. Et je sais que je peux compter sur ce monsieur toujours d'avoir un mot encourageant, positif, peut-être quelque chose à me faire rire un petit peu. C'est une joie, il ajoute de la joie à l'observation du sabbat pour moi. Encourager. L'encouragement fait beaucoup de choses. Quelqu'un a dit, un dicton, que l'encouragement, c'est comme un sandwich au beurre d'arachide. Plus on l'étend, mieux les choses collent ensemble. Plus on l'étend sur le pain, mieux les choses collent ensemble. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Il y avait un peintre américain très connu qui s'appelait Benjamin West. Et il a raconté que quand il était petit, il a décidé de faire le portrait de sa sœur. Alors, il a sorti de l'encre, du papier, et il s'est mis à faire le portrait de sa sœur. Mais étant petit, il était un peu maladroit encore, et il y avait de l'encre partout. Il y avait de l'encre vraiment partout. Et puis, sa mère arrive, elle voit cette encre partout, un papier pratiquement méconnaissable, parce que ses efforts n'étaient pas développés encore. Et au lieu de le gronder, ce qui serait la réaction de beaucoup de parents, elle a pris le papier, elle a regardé, elle a embrassé son fils et elle lui a dit « Quel beau portrait de ta sœur! Quel beau portrait de ta sœur !» Et il s'est rappelé de ce moment, étant adulte, il a dit « Avec ce baiser de ma mère, je suis devenu peintre. Avec ce baiser de ma mère, je suis devenu peintre. » Et finalement, il a fait des tableaux magnifiques. Comme le tableau que vous voyez à l'écran là maintenant, si tout se passe comme je l'ai prévu, il a pu faire ça, mais peut-être qu'il n'aurait pas pu faire des tableaux comme cela si sa mère n'avait pas été encourageante pour lui, dans ce moment-là, quand c'était le plus important pour lui. Ça, c'est donc le quatrième point, c'est d'être encourageant, d'encourager, de donner du courage, de pouvoir continuer. Quatrième point sur notre liste de contrôle, pour renforcer la fraternité. Dans Romains chapitre 15, nous allons trouver les points 5, 6 et 7. Il y a trois points dans ce passage. Romains chapitre 15, verset 1. Romains chapitre 15, à partir du verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, de bâtir, de construire. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, nous vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire du Père. Il y a au moins, peut-être que vous en trouverez d'autres, moi j'en ai trouvé trois éléments qui sont mentionnés dans ce passage qui vont tendre à renforcer les sentiments de fraternité qui doivent exister dans l'Église. Premièrement, il a dit de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas encore forts. Et ça va arriver dans l'Église. Si vous pensez à vos frères et sœurs, vous allez penser à quelques faiblesses, aussi que des points forts, je l'espère du moins. Et vos frères et sœurs, quand ils vont penser à vous, ils vont penser aussi à vos points forts, et probablement ils ont remarqué vos points faibles également. Mais c'est le cas pour nous tous. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts et ne pas chercher ce qui nous plaît. Nous devons supporter. Qu'est-ce que ça veut dire supporter ceux qui ne sont pas? Ça veut dire ne pas perdre patience, par exemple. Si quelqu'un dit un mot de travers, ne pas répliquer immédiatement de la sorte. Accepter les gens tels qu'ils sont. Accepter les gens tels qu'ils sont. Dieu n'a pas fini avec aucun de nous encore. Il y a du chemin à faire pour nous tous. Et nous devons nous détendre un petit peu, reprendre notre souffle. OK, je peux le faire. Dieu a choisi, Dieu a attiré cette personne, Dieu a appelé cette personne, il travaille dans la vie de cette personne. Il faut que je patiente, tout comme d'autres doivent patienter avec moi. Nous devons supporter. Ne pas perdre patience. Nous accepter les uns les autres comme nous le sommes en attendant de voir les progrès que nous espérons tous voir dans nos vies. Supporter. Est-ce que nous nous supportons facilement? Ce n'est pas tout ce qu'il faut faire, mais c'est une chose que nous devons faire. Deuxièmement, il a dit de complaire, de plaire aux autres. De plaire aux autres. Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Il cherchait à faire le bien pour les autres. Et il dit, fin du verset 1, « Ne pas chercher ce qui nous plaît, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. » Est-ce que c'est un but que nous avons à l'esprit? Il faut que je plaise à mes frères et sœurs. Il faut leur accorder du plaisir par mon comportement, par mes paroles. Je dois chercher à leur faire plaisir. Je dois complaire à mes frères et sœurs. Je ne sais pas si nous avons toujours cette idée en tête. Parfois, on peut être un peu manqué de patience, on peut être impatient et ne pas chercher à plaire à l'autre personne, mais plutôt fixer nos pensées sur le fait qu'il ne m'a pas plu à moi. Mais notre rôle, c'est de plaire aux autres. Pas exiger que les autres nous plaisent, mais de plaire aux autres, complaire, chercher à être agréable. Est-ce que nous cherchons à être agréables les uns aux autres? Ne pas insister sur nos droits. J'ai le droit de faire ceci, je dois dire la vérité, alors je vais lui faire mes quatre vérités. Le plus souvent, ça ne va pas plaire à l'autre personne, pas plus que ça nous plaît nous quand quelqu'un d'autre nous traite de cette façon-là. Nous devons chercher pour le bien, non pas dans un mauvais sens, mais chercher à plaire pour ce qui est bien en vue de l'édification. C'est possible de faire les deux en même temps. C'est possible de plaire à quelqu'un tout en tendant vers l'édification. Nous devons donc chercher à plaire les uns aux autres, d'avoir des commentaires, des conversations positives, agréables, où les gens ont hâte de discuter avec nous. Vous, comme moi, vous avez déjà eu des conversations où on appréhende même de commencer la conversation parce que parfois il y a des gens qui sont tellement sensibles qu'un mot placé de travers et puis ça risque de sauter. Et ça ne devrait pas être le but de nos conversations. Nous devrions avoir des conversations agréables pour tout le monde qui est impliqué dans la discussion. Ça, c'est le deuxième aspect que nous voyons ici. Le point numéro 6, c'est de plaire aux autres. Complaire, chercher à être agréable à nos frères et sœurs. Ça tend vers une solide fraternité. Et puis, la dernière chose que j'ai trouvée ici dans ce passage, c'est d'accueillir. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Physiquement, c'est un devoir de nous accueillir de plus que nous pouvons. Maintenant, selon les moyens que nous avons à disposition, nous ne pouvons pas peut-être accueillir tout le monde chez nous comme nous voulions le faire. Ils peuvent avoir des limites, mais selon les limites que nous avons, selon les moyens que nous avons, nous devrions chercher à nous accueillir les uns les autres, comme l'apôtre Paul dit ici. Et j'aimerais dire aussi un mot à propos de l'accueil que nous réservons aux nouvelles personnes que Dieu peut appeler dans l'Église. Quand Dieu appelle une nouvelle personne, cet accueil sera très important. Quelles seront les premières impressions de cette personne qui arrive dans notre assemblée? Est-ce que ce sera positif? Est-ce que ce sera négatif? Est-ce qu'on n'y prête pas attention du tout? Probablement, nous avons eu cette expérience. Je sais que mon épouse m'a parlé de son expérience quand elle était jeune et relativement nouvelle dans l'Église. Elle est allée dans une nouvelle assemblée. Et puis, ce n'est pas qu'elle était mal reçue, elle n'était pas reçue du tout. C'est comme si elle n'était même pas là. Personne ne lui adressait la parole. Personne n'est venu vers elle. C'est la première fois dans l'assemblée. Clairement, elle était nouvelle dans cette assemblée et personne n'est venu. Quel est l'accueil que nous réservons aux nouvelles personnes, aux tout nouveaux que Dieu peut appeler dans l'Église? Ces personnes, mes frères et sœurs, méritent une attention toute particulière. Nous devrions aller vers elles et les accueillir, parler, les aider à savoir comment faire, un livre de cantiques ou autre chose. Cet accueil-là peut être très important. Peut être bien accueilli, malheureusement, on peut aussi être mal accueilli. Nous allons mal accueillir des gens si nous ne pensons pas à eux et si nous sommes tout embobinés avec nos propres affaires. On pense à ce qu'on a à faire, nous, ce que je veux, moi, et puis on oublie les autres. Et ça, c'est dommage. Dieu ne va pas appeler de nouvelles personnes dans l'Église, du moins pas beaucoup, si elles seront mal accueillies. C'est logique, n'est-ce pas? Il faut être bien accueillis dans l'Église de Dieu. C'est un devoir spirituel que nous avons. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Notre accueil des uns des autres, notre accueil de nouvelles personnes à l'Assemblée devrait porter à la gloire de Dieu. Après une première assemblée avec l'Église de Dieu, la nouvelle personne devrait rentrer en disant « Mais ça, c'est vraiment formidable. » Quel groupe de gens agréables, quel groupe de gens attentionnés qui ont été très gentils, très serviables envers moi. Je me suis senti tout de suite comme j'étais chez moi. Ça, c'est la réaction que nous voulons voir chez de nouvelles personnes que Dieu peut appeler dans son Église. Accueillez-vous les uns les autres. Voilà donc dans ce passage de Romains chapitre 15, les points 5, 6 et 7 sur notre liste de contrôle. Supporter les uns les autres, complaire aux autres et accueillir les uns les autres. Ce sont des points qui vont renforcer la fraternité. Maintenant, huitième point, Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 2. Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça aussi, c'est une responsabilité que nous avons et qui va renforcer la fraternité dans l'Église. Portez les fardeaux. Ça peut être un fardeau physique. Ça peut être, si nous arrivons à l'Assemblée, quelqu'un doit porter quelque chose pour l'Assemblée, ou voyez un frère ou soeur porter autre chose, porter un fardeau, on va y aller. On va y aller leur donner un coup de main. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose comme cela, physiquement? C'est quand la dernière fois que vous avez porté le fardeau ou un fardeau spirituel à quelqu'un? Nous portons tous des fardeaux spirituels, n'est-ce pas? Nous avons des choses qui sont lourdes à porter, difficiles à supporter, et nous pouvons nous aider mutuellement. Alors, je vous invite à vous poser la question, quel fardeau avez-vous porté pour un frère ou une sœur récemment? C'est quand la dernière fois que vous avez porté un fardeau à quelqu'un, physiquement, émotionnellement, spirituellement? Porter les fardeaux, être impliqué suffisamment dans la vie des uns et des autres que nous voulons nous entraider, que nous voulons alléger le fardeau porté par quelqu'un d'autre. Si ça remonte à longtemps, si vous ne pouvez pas penser à un moment récent quand vous avez fait cela, c'est peut-être sujet à réflexion. Ça serait bien d'y réfléchir. Porter les fardeaux des uns des autres. Neuvième point, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 1. Philippiens chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 3 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité. L'humilité aussi renforce la fraternité. Regardez les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes habillés d'humilité? Il y a un autre passage qui parle de ça. On doit revêtir l'humilité. Comme on mettrait un vêtement, on est tout entouré, on est couvert vraiment de cette humilité. Henri-Frédéric Amiel a dit « La couronne de la vraie grandeur, c'est l'humilité pour soi-même et la bonté pour les autres. » La couronne de la vraie grandeur, c'est l'humilité pour soi-même et la bonté pour les autres. Et ça, c'est tout à fait vrai. Personne n'aime être avec quelqu'un qui est un peu vantard. On n'aime pas trop. C'est comme les blagues qu'on raconte une fois où un homme discutait avec une femme, il parlait de tout, il se vantait, il parlait de toutes ses grandes qualités, combien il était formidable. Et puis finalement, il dit, mais j'ai assez parlé de moi-même, et vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Il n'était pas recouvert d'humilité, cet homme-là. L'humilité, de mettre les feux de la rampe sur quelqu'un d'autre, de ne pas nous vanter de ce que nous avons accompli, combien les gens nous aiment, à quel point nous sommes serviables, tout ce que nous avons fait pour les autres. C'est bien d'être serviable et de faire toutes ces choses pour les autres et de servir, mais ce n'est pas à nous de nous vanter, de sonner la trompette à propos de nos faits et gestes. Le proverbe dit qu'un autre vous loue et pas votre propre bouche. Et ça, c'est tout à fait vrai. L'humilité crée la fraternité. L'orgueil détruit la fraternité, affaiblit la fraternité. Donc, il nous faut développer l'humilité. Et ça, c'est très difficile à faire. L'humilité, c'est comme une semence de pastèque. Vous avez essayé de tenir une semence de pastèque, ça glisse tellement que si vous le tenez très fort, hop, ça part. Et quand nous pensons, ça y est, je suis arrivé, je suis humble maintenant, eh bien, l'orgueil là sera là quelque part très rapidement si on ne fait pas attention. L'humilité, neuvième point, c'est très important. Dixième point sur notre liste de contrôle, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul venait de parler de la résurrection des morts. C'est une des plus grandes consolations que nous avons dans la vie, de savoir que nous allons revoir nos chers disparus. C'est une consolation dans l'épreuve, dans le deuil, dans la douleur. Nous avons besoin de consolation. Et Paul dit en particulier, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. C'est Dieu qui nous console par la vérité, mais nous avons besoin des uns des autres aussi de rappeler certaines promesses de Dieu, de souligner certaines promesses, l'espoir que Dieu nous donne pour l'avenir. Nous pouvons nous consoler les uns les autres quand nous sommes éprouvés, quand nous sommes dans le deuil. C'est le moment où quelques paroles bien choisies pour rappeler une promesse de Dieu, rappeler l'espoir que Dieu nous donne, rappeler qu'il y aura une résurrection des morts, que nous allons revoir nos chers disparus. Ça, c'est une chose qui est vraiment un soulagement. La consolation se fait dans les moments difficiles. Et assez souvent, il y a une tendance humaine à vouloir éviter les gens qui souffrent. Parce qu'après tout, on a déjà nos propres fardeaux à porter, n'est-ce pas ? Aller là où c'est triste, on préfère éviter. Quand on voit quelqu'un qui souffre beaucoup, il peut avoir une tentation de l'éviter, parce qu'on a peur de ce qui peut arriver, ça peut être désagréable. Mais c'est précisément dans ces moments de difficulté que nous avons la possibilité de consoler des frères et sœurs. Et ça, c'est très fort pour développer des liens de fraternité. Quand nous avons été là pour quelqu'un dans ces moments de grands besoins et d'épreuves, ça solidifie la relation comme peu d'autres choses peuvent le faire. Alexandre Dumas fils a dit, « Le bonheur n'est pas dans le nombre des jours vécus ici-bas. Il est dans les jours remplis par l'amour, par l'amitié, par toutes les consolations divines que Dieu nous accorde sur la terre. » Je répète, « Le bonheur n'est pas dans le nombre des jours vécus ici-bas. Il est dans les jours remplis par l'amour, par l'amitié, par toutes les consolations divines que Dieu nous accorde sur la terre. » Et c'est vrai que Dieu nous accorde des consolations. Au milieu des difficultés, des peines, des épreuves, Dieu nous console, mais nous pouvons, par notre entremise, nous pouvons renforcer ces consolations, rappeler ces consolations au bon moment. Nous avons la possibilité de faire cela, se consoler. Alors cherchons à nous consoler les uns les autres dans les moments difficiles. Onzième point. Hébreux chapitre 13. Normalement, je n'ai pas tant de points dans mes sermons, mais exceptionnellement, comme vous le voyez, nous allons voir, parce qu'il y a plusieurs choses mentionnées dans la Bible. Et c'est, comme j'ai dit, une liste de contrôle. Hébreux chapitre 13, verset 1. Hébreux 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel, c'est ce que nous étudions en fait maintenant. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. L'hospitalité, s'inviter les uns les autres, partager ce qu'on a avec d'autres personnes. Même avec peu, si on s'organise, on peut inviter d'autres personnes. Il y a un chanteur américain, encore une fois, John Charles Thomas. Il était âgé de 66 ans. Quand il a écrit à un journaliste connu dans le pays, il a écrit ceci, « Je suis actuellement au milieu de la deuxième année d'un projet de 3 ans pour vérifier l'hospitalité ou la manque d'hospitalité dans les églises américaines. À ce jour, j'ai visité 195 églises. Une fois seulement, quelqu'un d'autre que la personne chargée de l'accueil » m'a adressé une parole, et cette fois-là, c'était pour demander de me déplacer les pieds. Triste, n'est-ce pas? Quelle serait la réaction de quelqu'un qui arriverait dans nos assemblées? Est-ce que l'hospitalité serait là dans nos assemblées? Est-ce que l'hospitalité est pratiquée envers d'autres frères et sœurs? Est-ce que nous organisons une soirée, même si on demande à chacun d'apporter ce qu'il peut apporter, au moins d'avoir un lieu où on peut passer du temps ensemble, en semaine ou après l'assemblée? L'hospitalité, s'inviter, ça, c'est un aspect de la fraternité qui est souligné par la Bible, par la parole de Dieu. L'hospitalité. Qu'est-ce qui serait le cas pour nous? Si nous avons la possibilité, c'est quand la dernière fois que nous avons invité quelqu'un, que nous avons organisé une sortie ensemble? Ça aussi, c'est une partie, ça fait partie de l'hospitalité. Dans la mesure de nos possibilités, c'est une chose que la Bible nous encourage à faire. J'ai déjà été invité, mon épouse et moi avons été invités chez les frères et sœurs qui vivaient de façon très modeste, très très modeste, et pourtant ils étaient heureux de partager ce qu'ils pouvaient. Nous avons apporté quelque chose également pour le repas, on a passé une soirée très agréable ensemble. Ça s'est produit beaucoup de fois. Donc l'hospitalité. 11e point sur la liste de contrôle, qui compte 13, donc on arrive à la fin. 12e point, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, voilà notre mot, fraternité, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Ça, c'est même entre frères et sœurs ici. Il dit ne rendez point le mal pour le mal. Ça veut dire que des mots vont exister, M-A-U-X. Il va y avoir un mal qui va arriver, qui peut arriver, même entre frères et sœurs, même entre personnes bien motivées, puisqu'on se trompe, on est humain, il peut avoir une blessure. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. J'ai intitulé ce point-là « Encaisser ». Encaisser. S'il y a un mal qui est commis, nous devons encaisser. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas pratiquer Matthieu 18 et aller voir notre frère si un péché a été commis. Ça aussi, c'est dans la Bible, c'est applicable. Mais nous ne devons pas rendre mal pour mal, injure pour injure. Même dans le cas où nous avons reçu un mal ou une injure, nous devrions bénir et puis appliquer Matthieu chapitre 18. Mais nous devons faire attention de ne pas réagir sous le feu de l'émotion et d'empirer une situation qui peut-être est déjà pas ce qu'elle devrait être. Encaisser. Pouvons-nous le faire? Pouvons-nous encaisser pour la gloire de Dieu? Ça fait partie de notre mission. Encaisser. Patienter. Et 13e, 1 Jean chapitre 3, verset 17. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ce 13e point, c'est la générosité. Évidemment, c'est selon les moyens que nous avons à disposition. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais dans les mesures de nos moyens, nous devons être généreux les uns envers les autres. Nous devons lâcher quelque chose pour aider ceux qui sont dans le besoin. Maintenant, c'est question d'être vraiment dans le besoin. Ce n'est pas dans le désir. J'ai des désirs, mais ce ne sont pas des besoins. C'est différent. Parfois, on les confond. On confond un désir avec un besoin. Et ce n'est pas la même chose. Mais quelqu'un qui, dans le besoin, si nous avons la possibilité de faire quelque chose, nous devrions essayer de le faire. Nous devons être prêts à nous séparer de quelque chose pour le bien-être des autres. selon, je répète, les moyens que Dieu met à notre disposition. Voilà une liste de contrôles concrets, pratiques, qui peut nous aider à contribuer à la fraternité qui doit exister entre frères et sœurs dans l'Église. Et j'aimerais conclure en lisant un dernier passage dans 1 Jean chapitre 4, nous sommes presque là, 1 Jean chapitre 4 verset 11. 1 Jean chapitre 4 verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclara publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. La fraternité que nous avons les uns les autres est une mesure, une règle de notre conversion. C'est une façon de mesurer la profondeur de notre conversion. Notre fraternité, notre amour et engagement pour nos frères et sœurs dans la famille spirituelle que Dieu est en train de préparer. Comme j'ai dit, notre fraternité en dit long sur notre conversion, sur notre engagement vis-à-vis de notre Père céleste et de son œuvre, la mission qu'il nous a donnée. Les parents le savent, une des plus grandes joies pour un parent, c'est de voir leurs enfants unis, voir leurs enfants qui s'aiment, qui jouent ensemble gentiment, paisiblement, dans la joie. Ça donne énormément de joie aux parents. Les plus grandes peines des parents, c'est de voir chez leurs enfants des disputes, des méchancetés, mauvais comportements, désaccords, une situation où l'unité manque. C'est pareil pour un pasteur dans l'Église. Une de nos plus grandes joies, c'est de voir la fraternité, l'entraide, la joie des frères et sœurs être ensemble dans la paix, où on s'aime, on s'aide mutuellement, on s'encourage. Et une des plus grandes peines, c'est de voir le contraire. On se tire dans les jambes et il y a des insultes ou des commentaires déplacés. Ça, c'est dommage, ça fait de la peine. Mais ce qui est plus important que tout cela sur le plan humain, c'est que c'est pareil pour Dieu. Ça fait plaisir à Dieu, ça lui donne de la joie quand il nous regarde, sa famille ici-bas sur la terre, et il nous voit unis par l'amour fraternel. Quand il nous voit en train de faire les efforts pour fortifier cette fraternité, cet esprit de fraternité qui doit exister. Ça attriste Dieu quand il ne le voit pas, mais ça lui donne de la joie quand il voit cette maturité dans la fraternité de ses enfants. Alors, frères et sœurs, faisons-lui plaisir.